Chapitre 62 La Malmaison. 1815 arriva. On en était au 6 juillet, Waterloo fumait encore à l'horizon. Le 21 juin, à 6 heures du matin, Napoléon était rentré à l'Élysée. Le 22, il signait cette déclaration. Français, en commençant la guerre pour soutenir l'indépendance nationale, je comptais sur la réunion de tous les efforts, de toutes les volontés et le concours de toutes les autorités nationales. J'étais fondé à espérer le succès et j'avais bravé toutes les déclarations des puissances contre moi. Les circonstances paraissent changer. Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Puissent-ils être sincères dans leurs déclarations et n'en avoir jamais voulu qu'à ma personne. Ma vie politique est terminée, et je proclame mon fils sous le titre de Napoléon II, empereur des Français. Les ministres actuels formeront provisoirement le conseil de gouvernement. L'intérêt que je porte à mon fils m'engage à inviter les chambres, à organiser sans délai la régence par la loi. Unissez-vous tous pour le salut public et pour rester une nation indépendante. Donné au palais de l'Élysée le 22 juin 1815, Napoléon. Quatre jours après avoir signé cette déclaration, c'est-à-dire le 26 juin, Napoléon, presque en réponse, comme on le voit, à son abdication, recevait l'arrêté suivant. La commission du gouvernement arrête ce qui suit. Article 1er. Le ministre de la Marine donnera des ordres pour que deux frégates du port de Rochefort soient armées pour transporter Napoléon Bonaparte aux États-Unis. Article 2. Il lui sera fourni jusqu'au point du débarquement, s'il le désire, une escorte suffisante sous les ordres du lieutenant-général Becker, qui est chargé de pourvoir à sa sûreté. Article 3. Le directeur général des postes donnera, de son côté, tous les ordres relatifs au service des relais. Article 4. Le ministre de la Marine donnera des ordres pour assurer le retour des frégates aussitôt après le débarquement. Article 5. Les frégates ne quitteront point la rade de Rochefort avant que les sauf-conduits demandés soient arrivés. Article 6. Les ministres de la Marine, de la Guerre et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Signé, duc d'Otrante, comte Grenier, comte Carnot, baron Quinette, Caulaincourt, duc de Vicence. Le lendemain, le duc d'Otrante, en vertu d'une nouvelle décision du gouvernement, autorisait l'empereur à recevoir, contre quittance motivée, un service d'argenterie de 12 couverts, le service de porcelaine, dit des quartiers généraux, 6 services de 12 couverts en linge damassé, 6 services en linge d'office, 12 paires de draps de premier choix, 12 paires de draps de service, 6 douzaines de serviettes d'appartement, 2 voitures de voyage, 3 selles hybrides d'officier général, 3 selles hybrides de piqueur, 400 volumes à prendre dans la bibliothèque de Rambouillet, diverses cartes géographiques, enfin 100 000 francs pour les frais généraux de voyage. C'était le dernier trousseau de l'empereur. Le même jour, vers 4 heures du soir, le général comte Becker, chargé de la garde de celui qu'on n'appelait déjà plus que Napoléon Bonaparte, recevait du maréchal ministre de la guerre, prince d'Eckmühl, la lettre suivante. Ce dernier, du moins, appelait encore son ancien maître empereur et majesté. Mais, comme on le verra, cela ne l'engageait à rien, et puis on sait ce que c'est que la force de l'habitude. Monsieur le Général, j'ai l'honneur de vous transmettre 6 juin un arrêté que la commission du gouvernement vous charge de notifier à l'empereur Napoléon en faisant observer à Sa Majesté que les circonstances sont devenues tellement impérieuses qu'il est indispensable qu'elle se décide à partir pour se rendre à l'île d'Aix. Cet arrêté a été pris autant dans l'intérêt de sa personne que dans celui de l'État qui doit lui être cher. Si l'empereur ne prenait point une résolution à la notification que vous lui ferez de cet arrêté, vous exerceriez la surveillance la plus active, soit pour que Sa Majesté ne puisse sortir de la malmaison, soit pour prévenir toute tentative contre sa personne. Vous feriez alors garder toutes ces avenues qui aboutissent de tous côtés à la malmaison. J'écris au premier inspecteur de la gendarmerie et au commandant de la place de Paris pour mettre à votre disposition la gendarmerie et les troupes que vous pourriez demander. Je vous réitère, monsieur le général, que cet arrêté a été entièrement pris pour l'intérêt de l'État et la sûreté personnelle de l'empereur. Sa prompte exécution est indispensable, le sort de sa majesté et de sa famille en dépend. Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur le général, que toutes ces mesures doivent être prises dans le plus grand secret possible. Signé le maréchal ministre de la guerre, prince d'Eckmühl. Une heure après, le même général Becker recevait du duc d'Otrante cette autre lettre qui lui était transmise par le ministre de la guerre. « Monsieur le comte, la commission vous rappelle les instructions qu'elle vous a transmises il y a une heure. Il faut faire exécuter l'arrêté tel que la commission l'avait pris hier, et d'après lequel Napoléon Bonaparte restera en rade de l'île d'Aix jusqu'à l'arrivée des passeports. » Il importe au bien de l'État, qui ne saurait lui être indifférent, qu'il y reste jusqu'à ce que son sort et celui de sa famille aient été réglés de manière définitive. Tous les moyens seront employés pour que cette négociation tourne à sa satisfaction. L'honneur français y est intéressé, mais en attendant, on doit prendre toutes les précautions pour la sûreté personnelle de Napoléon et pour qu'il ne quitte point le séjour qui lui est momentanément assigné. Signé duc d'Otrante. Dès le 25, sur l'invitation de la commission du gouvernement, l'empereur avait quitté l'Élysée et s'était retiré à la Malmaison, toute pleine encore du souvenir de Joséphine. Malgré la lettre du duc d'Otrante et les instances du gouvernement provisoire, Napoléon ne pouvait se décider à partir. Le 28 juin, il dictait cette lettre au comte Becker. Il était bien entendu que, quoique dictée par l'empereur, le comte Becker en prenait la responsabilité. Elle était adressée au ministre de la guerre. « Monseigneur, après avoir pris connaissance de l'arrêté du gouvernement relatif à son départ pour Rochefort, Sa Majesté l'Empereur m'a chargé d'annoncer à Votre Altesse qu'elle renonce à ce voyage, attendu que, les communications n'étant pas libres, elle ne trouve pas une garantie suffisante pour la sûreté de sa personne. D'ailleurs, en arrivant à cette destination, l'Empereur se considère comme prisonnier, puisque son départ de l'île d'Aix est subordonné à l'arrivée des passeports qui lui seront sans doute refusés pour se rendre en Amérique. En conséquence de cette interprétation, l'empereur est déterminé à recevoir son arrêt à la Malmaison, et en attendant qu'il soit statué sur son sort par le duc de Wellington, auquel le gouvernement peut annoncer cette résignation, Napoléon restera à la Malmaison, persuadé que l'on n'entreprendra rien contre lui qui ne soit digne de la nation et du gouvernement. Signé Comte Becker. On voit qu'on n'appelait plus Napoléon Majesté, mais que l'on appelait toujours le prince d'Eckmühl Altesse. Une pareille réponse devait amener des mesures de rigueur. Dans le courant de la journée arriva une dépêche. On crut d'abord qu'il s'agissait du départ de l'empereur. Napoléon l'ouvrit et lut ce qui suit. Ordre du ministre de la guerre au général Becker. Paris, 28 juin 1815. Monsieur le général, vous prendrez une partie de la garde qui se trouve à Ruelle sous vos ordres et vous irez brûler et détruire complètement le pont de Chatou. Je fais détruire également par les troupes qui sont à Courbevoie le pont de Beson. J'y envoie un de mes aides de camp pour cette opération. J'enverrai demain des troupes à Saint-Germain, mais en attendant, gardez-vous sur cette route. L'officier qui vous porte cette lettre est chargé de m'apporter lui-même le rapport de l'exécution de cet ordre. Le général Becker attendait la décision de l'empereur. L'empereur, avec le plus grand calme, lui remit la lettre. « Qu'ordonne votre majesté ? » demanda le comte Becker. « Faites exécuter l'ordre qui vous est donné, » répondit l'empereur. Le général Becker fit exécuter l'ordre à l'instant même. Le soir, on appela le général à Paris. Il partit à 8 heures. Napoléon ne voulut point se coucher avant le retour du général. Il désirait savoir ce qui se serait passé entre celui-ci et le ministre de la guerre. À 11 heures, le général rentra. L'empereur le fit aussitôt appeler. « Eh bien, lui demanda-t-il, dès qu'il l'aperçut, que se passe-t-il à Paris ?»« Des choses étranges, sire, et que votre majesté aura peine à croire. »« Vous vous trompez, général. Depuis 1814, je suis guéri de l'incrédulité. Dites donc ce que vous avez vu. » Vu, oui, sire, on dirait que votre majesté a le don de deviner. En arrivant à l'hôtel du ministre, je me suis croisé avec une personne qui sortait de chez le prince et à laquelle je ne fis d'abord pas grande attention. Et quelle était cette personne ? Dit Napoléon, impatient. Le prince prit le soin de me l'apprendre lui-même, continua le général. « Avez-vous reconnu l'homme qui me quitte ? » demanda-t-il. « Je n'ai point fait attention à lui, » répondis-je. « Eh bien, c'est monsieur de Vitrolles, agent de Louis XVIII. » Napoléon ne put réprimer un léger tressaillement. Le général Becker continua, ou plutôt reprit. « Eh bien, mon cher général, me dit le ministre de la guerre, c'est monsieur de Vitrolles, agent de Louis XVIII, qui vient de la part de sa majesté, Louis XVIII était redevenu majesté, me soumettre des propositions que j'ai trouvées tout à fait acceptables pour le pays. De sorte que, si les miennes ne sont agréées, je monterai demain à la tribune pour exposer le tableau de notre situation et pour faire sentir la nécessité d'adopter des projets que je crois utiles à la cause nationale. » Ainsi, murmura Napoléon, la cause nationale maintenant, c'est le retour des Bourbons. Et vous n'avez rien répondu à cela, général ? Si fait, sire. Monsieur le maréchal, ai-je répondu, je ne puis vous dissimuler mon étonnement de vous voir prendre une détermination qui doit décider du sort de l'Empire en faveur d'une seconde restauration. Prenez garde de vous charger d'une pareille responsabilité. Il y a peut-être encore des ressources pour repousser l'ennemi, et l'opinion de la Chambre ne me paraît point, après son vote pour Napoléon II, favorable au retour des Bourbons. Eh bien, demanda vivement l'empereur, qu'a-t-il répondu, lui ? Rien, sire. Il est rentré dans son cabinet et m'a fait passer un nouvel ordre de départ. En effet, le général rapportait un ordre où il était dit que si Napoléon tardait de 24 heures à partir, on ne répondait plus de sa personne. Mais l'empereur restait comme insensible à cet ordre. Lui qui ne devait plus s'étonner de rien, s'étonnait cependant d'une chose. C'était que le retour des Bourbons fut négocié avec M. de Vitrolles par le prince d'Eckmühl qui avait négocié son retour à lui, Napoléon. Par ce même homme qui lui avait envoyé à l'île d'Elbe M. Fleury de Chaboulon pour appeler son attention sur l'état des choses et lui dire que la France était ouverte et l'attendait. Et en effet, lorsqu'arriva la nouvelle du débarquement, l'ancien chef d'état-major de Napoléon était tellement compromis qu'il alla demander un refuge à M. Pasquier, chirurgien en chef des Invalides, qu'il avait connu à l'armée et sur le dévouement duquel il savait pouvoir compter. Napoléon se trompait. Il y avait donc encore des choses qui pouvaient l'étonner. Il donna l'ordre de son départ pour le lendemain. Mais tandis que se faisaient les préparatifs du départ de l'empereur, une scène s'accomplissait dont les suites pouvaient devenir plus graves. Un de ceux qui avaient vu avec le plus de douleur Napoléon se débattre, irrésolu, sous la main de Dieu, à l'Élysée d'abord, à la Malmaison ensuite, était notre ancienne connaissance, M. Saranty, qui en ce moment expie sous les verrous et bientôt, peut-être, va payer de sa vie son dévouement obstiné à l'empereur. Depuis le retour de Napoléon, il n'avait cessé de faire respectueusement observer à son ancien général qu'avec un pays comme la France, rien n'était jamais perdu. Les maréchaux étant oublieux, les ministres étaient ingrats, le Sénat était infâme, mais le peuple, mais l'armée restait fidèle. « Il fallait tout rejeter loin de soi », répétait M. Saranty, et en appelait, dans ce grand duel, au peuple et à l'armée. Le 28 juin au matin arriva un événement qui parut donner pleinement raison aux rudes et inflexibles conseillers. Vers 6 heures du matin, tous les proscrits de la Malmaison, ceux qui habitaient ce château étaient déjà des proscrits, tous les proscrits de la Malmaison furent réveillés par les cris furieux de « Vive l'empereur ! À bas les Bourbons ! À bas les traîtres !» Chacun se demandait ce que voulaient dire ces cris qu'on n'avait point entendus depuis le jour où, sous les fenêtres de l'Élysée, 2 régiments de tirailleurs de la garde, enrôlés volontaires, pris parmi les ouvriers du faubourg Saint-Antoine, étaient venus défiler dans le jardin en demandant à grands cris que l'empereur se mît à leur tête et les conduisît à l'ennemi. M. Saranty seul semblait être au courant de ce qui se passait, Il était debout, tout habillé, et dans la chambre qui précédait celle de l'empereur. Avant même que celui-ci eût appelé pour savoir quel était ce bruit, il entra. Ses premiers regards se portèrent sur le lit. Le lit était vide. L'empereur était dans la bibliothèque attenante à la chambre. Assis devant la fenêtre, les pieds sur l'appui de la croisée, il lisait Montaigne. En entendant des pas, « Qu'est-ce ? » demanda-t-il sans se détourner. « Sire, lui dit une voix connue, entendez-vous ? » « Quoi ? » « Et les cris de « Vive l'empereur !»« À bas les Bourbons, à bas les traîtres !» L'empereur sourit tristement. « Eh bien, après, mon cher Saranty, dit-il. « Eh bien, sire, c'est la division braillée qui revient de la Vendée et qui est arrêtée devant la grille du château. » Après, continua l'empereur du même ton, avec le même calme, ou plutôt avec la même indifférence. « Après, sire, mais ces braves ne veulent pas aller plus loin. Ils ont déclaré qu'il fallait qu'on leur rendît leur empereur, ou que, si leur chef ne consentait pas à être leurs interprètes auprès de vous, ils allaient eux-mêmes venir prendre votre majesté et la mettre à leur tête. » « Après, reprit encore Napoléon. » Saranty étouffa un soupir. Il connaissait l'empereur. Ce n'était plus de l'indifférence, c'était du découragement. « Eh bien, sire, dit M. Saranty, le général Braillé est là et demande à entrer pour mettre au pied de votre majesté le vœu de ses soldats. » « Qu'il entre, dit l'empereur en se levant et en posant son livre tout ouvert sur la fenêtre, comme un homme qui ne fait qu'interrompre une lecture qui l'intéresse. » Le général Braillé entra. « Sire, dit-il, en s'inclinant respectueusement devant Napoléon, nous venons, ma division et moi, nous mettre aux ordres de votre majesté. Ah, »« Vous venez trop tard, général. Ah, »« Ce n'est point notre faute, sire. Dans l'espérance d'arriver à temps pour défendre Paris, nous avons fait 10, 12 et jusqu'à 15 lieues par jour. »« Général, dit Napoléon, j'ai abdiqué. »« Comme empereur, sire, pas comme général. » Un éclair passa dans les yeux de Napoléon. « Je leur ai offert mon épée, et ils l'ont refusée, dit-il. »« Ils l'ont refusée ? Qui cela, sire ? Excusez-moi si j'interroge votre majesté. »« Lucien, mon frère. »« Sire, le prince Lucien, votre frère, n'a pas oublié qu'il était le premier Brumaire, président du Conseil des 500. » « Sire, insista M. Saranty, faites-y bien attention. La voix de ces 10 000 hommes qui sont sous vos fenêtres et qui crient « Vive l'empereur !» c'est le cri du peuple, c'est le dernier effort de la France. C'est plus, c'est la dernière faveur de la fortune. Sire, au nom de la France, au nom de votre gloire... »« La France est ingrate, murmura Napoléon. Pas de blasphème, sire, une mère n'est jamais ingrate. Mon fils est à Vienne. » Et votre majesté en sait le chemin. Ma gloire est morte dans les plaines de Waterloo. Sire, rappelez-vous ce que vous disiez à l'Italie en 1796. La République est comme le soleil, aveugle ou fou, qui nierait sa clarté. Sire, songez que j'ai là 10 000 hommes de troupes, fraîches, enthousiastes, et qui n'ont point encore combattu, ajouta le général Braillé. L'empereur resta un instant pensif. « Faites appeler mon frère Jérôme, dit-il. » Un instant après, le plus jeune des frères de l'empereur, celui-là seul qui lui était resté fidèle, celui qui, rayé de la liste des souverains, avait combattu comme soldat, entra, pâle encore des deux blessures qu'il avait reçues, l'une aux quatre bras, l'autre à la ferme de Goumont, et des fatigues qu'il avait prises à soutenir la retraite de l'armée. L'empereur lui tendit la main, puis brusquement et sans préambule, « Jérôme, dit-il, qu'as-tu remis aux mains du maréchal Soult ?»« Le premier, deuxième et sixième corps, sire. »« Réorganisé ?»« Complètement. »« Combien d'hommes ?»« 38 ou 40 000 hommes. »« Et vous dites-vous, général, continua l'empereur en se tournant vers Braillé, 10 000. »« Et 42 000 aux mains du général Grouchy. »« 42 000 hommes de troupes fraîches, ajouta Jérôme. » « Tentateur, murmura Napoléon. « Sire, sire, s'écria Saranty en joignant les mains, vous êtes sur la voie de votre salut, en avant, en avant. »« C'est bien, je te remercie, Jérôme, ne t'éloigne pas, peut-être aurais-je besoin de toi. »« Général, attendez mes ordres à Ruelle. Toi, Saranty, mets-toi à cette table et écris. » L'ex-roi et le général sortirent en s'inclinant, tous deux le cœur plein d'espérance. Monsieur Saranty resta seul avec l'empereur. Il était déjà assis, tenait la plume et attendait. Écrivait, dit Napoléon. Puis, distrait, à la commission du gouvernement. Sire, dit Sarenti en jetant la plume, je n'écrirai pas à ces gens-là. Comment, tu n'écriras pas à ces gens-là? Non, sire. Et pourquoi? Parce que tous ces gens-là sont les ennemis mortels de votre majesté. Ils tiennent tout de moi. Raison de plus, sire, il y a des bienfaits si grands qu'on ne peut les payer que par l'ingratitude. Écris, te dis-je. Monsieur Sarenti se leva, salua et déposa la plume sur la table. « Eh bien, demanda l'empereur. Sire, nous n'en sommes plus au temps où les vaincus se faisaient tuer par un esclave. Écrire à la commission de gouvernement, c'est vous tuer aussi sûrement que si je vous enfonçais un couteau dans la poitrine. » Puis, comme l'empereur ne répondait pas, « Sire, sire, dit Sarenti, c'est l'épée qu'il faut prendre et non la plume. C'est à la nation qu'il faut en appeler et non à des hommes qui, je vous le répète, sont vos ennemis. Qu'ils apprennent que vous venez de battre les ennemis au moment où ils vous croiront sur la route de Rochefort. » L'empereur connaissait son compatriote. Il savait que rien ne le ferait fléchir, pas même un ordre de lui. « C'est bien, dit-il, envoyez-moi le général Becker. » Sarenti sortit. Le général Becker entra. « Général, dit Napoléon, je vous annonce que j'ai différé mon départ de quelques heures afin de vous envoyer à Paris pour soumettre de nouvelles propositions au gouvernement. »« De nouvelles propositions, sire ?» fit le général étonné. « Oui, dit l'empereur, je demande à reprendre le commandement de l'armée au nom de Napoléon II. » « Sire, dit le général, oserais-je vous faire respectueusement observer qu'un pareil message serait mieux rempli par un officier de la maison royale que par un membre de la chambre et un commissaire du gouvernement dont les instructions se bornent à accompagner votre majesté. »« Général, reprit l'empereur, j'ai toute confiance en votre loyauté, et c'est à cause de cela que je vous charge de cette mission, vous préférablement à tout autre. » « Sire, puisque mon dévouement peut être utile à votre majesté, répondit le général, je n'hésite pas à lui obéir, mais je voudrais avoir des instructions écrites. Asseyez-vous là, général, et écrivez. » Le général s'assit à la place que venait de quitter Sarenti et prit la plume déposée par lui. L'empereur dicta et le général écrivit. « À la commission du gouvernement. Messieurs, la situation de la France, les vœux des patriotes et les cris des soldats réclament ma présence pour sauver la patrie. Ce n'est plus comme empereur que je réclame le commandement, c'est comme général. 80 000 hommes se réunissent sous Paris. C'est 30 000 de plus que je n'en ai jamais eu sous la main dans la campagne de 1814. Et cependant, j'ai lutté 3 mois contre les grandes armées de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, et la France serait sortie victorieuse de la lutte sans la capitulation de Paris. C'est enfin 45 000 hommes de plus que je n'en avais lorsque je franchis les Alpes et conquis l'Italie. Après avoir repoussé l'ennemi, j'engage ma parole de soldat à me rendre aux États-Unis pour y accomplir ma destinée. Napoléon. Le général Becker ne tenta pas la moindre observation. Comme soldat, il comprenait que tout cela était possible. Il partit. Napoléon attendit avec anxiété. C'était la première fois, peut-être, que les muscles de son visage trahissaient l'agitation de son âme. Avec l'activité de son immense génie, il avait déjà tout réparé, tout reconstruit. Il dictait une paix, sinon glorieuse, du moins honorable, et accomplissait la parole donnée. Il quittait la France, non plus comme un fugitif, mais comme un sauveur. Pendant 2 heures, il caressa ce rêve radieux. Son œil plongeait sur l'avenue par laquelle devait revenir le général, son oreille écoutait chaque bruit. Par instant, son regard s'arrêtait avec complaisance sur son épée, jetée en travers des bras d'un fauteuil. Il comprenait enfin que c'était là son véritable sceptre. Tout pouvait donc se réparer, arrivée de Blücher, absence de Grouchy. Ce grand rêve de 1814 d'une bataille qui, sous les murs de Paris, anéantirait l'armée ennemie, ce grand rêve pouvait se réaliser. Sans doute, ces hommes auxquels il s'adressait le comprendraient comme lui. Comme lui, d'un côté de la balance, il mettrait l'honneur de la France, de l'autre, son abjection, et il n'hésiterait pas. Quelque chose comme un éclair passa devant les yeux de Napoléon, ébloui. C'était le reflet du soleil dans les vitres d'une voiture. La voiture s'arrêta, un homme en descendit. C'était le général Becker. Napoléon passa une main sur son front, appuya l'autre sur sa poitrine. Ne fallait-il pas qu'il redevînt de marbre? Le général entra. « Eh bien ? » demanda vivement l'empereur. Le général Becker s'inclina sans répondre en présentant un papier. « Sire, dit le général Becker, en abordant votre majesté avec l'air affligé qu'elle peut lire sur mon visage, je crois lui faire pressentir que je n'ai pas réussi dans ma mission. » L'empereur déploya lentement le papier et lut. « Le gouvernement provisoire ne peut accepter les propositions que lui fait le général Bonaparte et n'a plus qu'un conseil à lui donner, c'est de partir sans délai, attendu que les Prussiens marchent sur Versailles. » Signé duc d'Otrante. L'empereur lut ces lignes sans qu'une seule fibre de son visage trahît son émotion. Puis, d'une voix parfaitement calme, « Donnez des ordres pour ce départ, général, dit-il, et lorsqu'ils seront exécutés, venez me prévenir. » Le même jour, et comme sonnait 5 heures de l'après-midi, l'empereur quittait la Malmaison. Au marchepied de sa voiture, il retrouva Saranti, qui lui offrait pour appui un bras qui ne pliait jamais. « À propos, demanda Napoléon en posant la main sur ce bras, a-t-on prévenu le général Braillet qu'il pouvait continuer sa route vers Paris ?»« Non, sire, dit Saranti, il est temps encore. » Napoléon secoua la tête. « Ah, sire, murmura le Corse, vous n'avez plus foi dans la France. »« Si fait, répondit Napoléon, mais je n'ai plus foi dans mon génie. » Et il monta dans la voiture dont la portière se referma sur lui. Les chevaux partirent au galop, il s'agissait d'arriver à Versailles avant les Prussiens.